IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, votre radio d'Île-de-France en Val-d'Oise, à écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, et sur notre appli Android. Jacqueline Doraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Attentisme, hausse des défaillances, soutien aux chefs d'entreprise. Le secteur de la construction, face à un environnement difficile et déjà malmené ces derniers mois, manifeste de nouvelles inquiétudes en regard du contexte actuel. Décryptage. Ce matin, mardi 25 juin 2024, l'économie en direct sur IDFM Radio vous propose sa spéciale FFB 95, Fédération Française du Bâtiment du Val-d'Oise. Je le dis en entier hein, cette fois-ci. Sébastien. Sa mission, être aux côtés de ses adhérents et défendre la profession dans le Val d'Oise. Avec moi pour nous en dire plus sur l'organisation professionnelle de cette Fédération française du bâtiment du Val d'Oise, son président Sébastien Ramé. Bonjour Sébastien.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être au rendez-vous de l'économie en direct. Sébastien, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas.
Oui.
Chef de l'entreprise GTPR, spécialisée dans la rénovation, une position stratégique pour piloter la Fédération française du bâtiment du Val-d'Oise. Il me semble que c'est une belle position justement.
De toute façon, tous nos adhérents et tous nos élus sont des entrepreneurs à part entière et sont actifs sur une partie de leur temps et bénévoles pour notre Fédération française du bâtiment de l'autre côté.
Merci. Et à vos côtés, son secrétaire général, William Vinant. Bonjour William.
Bonjour Jacqueline.
Merci également pour votre venue dans nos studios. Totalement investi dans ce rôle de secrétaire général, la dernière fois, vous prépariez votre AG, dont nous pourrons en dire quelques mots, tout comme le congrès de la Fédération française de la FFB qui s'est tenu les 14 et 15 juin dernier à Marseille.
Exactement.
Nous attendions Jérémy Amorella, mais qui n'a finalement pas pu venir. Donc, les
impératifs de nos métiers d'entrepreneur.
Voilà, merci d'être les invités en direct et bienvenue sur IDFM Radio.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Sébastien Ramé, avant d'entrer dans le vif du sujet sur les difficultés du secteur, je vous laisse faire une petite piqûre de rappel hein, et nous présenter la Fédération française du bâtiment en général et celle du Val-d'Oise en particulier.
Merci Jacqueline. Donc en effet, la Fédération française du bâtiment, déjà au niveau national, on représente plus de 50 000 entreprises, c'est plus de 15 000 PME, 35 000 artisans, 4 majors. C'est une organisation professionnelle au niveau national et c'est vrai qu'elle représente 1,5 million d'actifs. Et on participe au niveau national à plus de 6% du PIB, enfin entre 6 et 8, actuellement c'est plutôt 8. Donc c'est un secteur qui est important et qu'on représente nous en tant que Fédération française du bâtiment au niveau national. Au niveau départemental, nous sommes aujourd'hui plus de 1250 entreprises adhérentes au niveau du département du Val-d'Oise, qui représentent 12 000 salariés et artisans du bâtiment. On met salariés et artisans le nombre d'actifs que nous représentons. Donc c'est un syndicat patronal, on va dire, puissant, qui représente vraiment un secteur important. Et notre rôle, en effet, c'est de déjà soutenir nos adhérents, donc de leur apporter une aide technique, sociale, économique, législative, juridique,
oui, juridique, oui.
Par rapport à toutes les questions qui peuvent se poser vis-à-vis de leur direction et leur gestion de leurs entreprises. Et puis aussi, c'est un rôle de représentation que nous avons au niveau de nos instances économiques, gouvernementales, ce genre de choses, pour défendre la profession, leur expliquer les problèmes qu'on peut avoir sur le terrain à exercer nos métiers. Et voir comment on peut justement améliorer la vie de nos entrepreneurs pour qu'on puisse participer pleinement à l'économie de notre pays.
C'est ça, et que ces entrepreneurs, qu'ils soient artisans, entrepreneurs, dirigeants d'une PME ou d'une ETI, la FFB est à leur côté pour les représenter, les défendre et les accompagner au quotidien.
Tout à fait.
William, vous voulez, non?
Oui, je voulais rajouter un petit quelque chose. Effectivement, on fait souvent, on dit souvent que la Fédé du Val-d'Oise, c'est des gros. Il y en a qui se recommandent uniquement représenter tous les artisans. Ça, faut quand même, je pense, remettre un petit peu l'église au milieu du village. La Fédération du bâtiment Val-d'Oise, c'est 80% d'entreprises de moins de salariés. Et là où effectivement on nous dit qu'on représente les grosses entreprises, donc c'est faux. Et à contrario d'autres, nous n'avons aucun problème à parler de nos adhérents. Nous, on a 1250 adhérents. D'autres les annoncent pas, c'est un petit peu dommage. Des fois, ce serait intéressant de le savoir aussi. Mm-hmm. Voilà.
Et d'où vient cette image de dire que vous défendez que les gros, enfin que vous n'avez que des gros industriels?
C'est parce qu'on a des grosses entreprises chez nous qui sont très représentatives du secteur, qui sont adhérentes à la Fédération française du bâtiment. Donc on fait vite l'amalgame entre voilà, et on a envie aussi d'opposer les choses, c'est-à-dire que il y a deux grands syndicats patronaux, on va dire, dans le monde du bâtiment. Les gros sont d'un côté, donc on dit que c'est les gros et il y a que les gros, et de l'autre côté c'est les plus petits, ce qui est archi faux. Enfin 80%, et même je pense qu'au niveau national c'est la même chose, William.
Tout à fait.
Ce sont des entreprises artisanales de moins de 10%, ce qui est le tissu économique le plus important du monde du bâtiment. Ce n'est que des PME locales qui travaillent de façon locale vis-à-vis d'un marché local et qui font qui rénovent et construisent notre territoire.
C'est ça. Il est important de dire que vous êtes un partenaire de proximité au quotidien pour les entreprises du bâtiment. Alors forcément, le contexte politique de ces derniers jours se répercute sur le secteur de la construction. Sébastien, on a bien compris que vous étiez quelqu'un de très positif. Et la dernière fois, vous aviez essayé de démonter cette ambiance un petit peu délétère. Mais qu'est-ce qu'il en est là aujourd'hui avec, je parle notamment du contexte politique là qui vient de s'annoncer.
Alors, je pense que tous les entrepreneurs à la base sont des gens positifs, et je pense qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, sinon on arrête d'avancer. Et dans l'ADN du bâtiment, on est souvent comme ça. Quand on travaille dans le bâtiment, si on voit tous les problèmes à construire, ben en fait on construit pas. Donc on préfère voir toutes les opportunités que peuvent proposer un chantier, et que les difficultés, elles vont se présenter et on va savoir les surmonter. C'est plutôt des opportunités que vraiment des difficultés. Donc ça, c'est vraiment un état d'esprit, c'est vrai. Par rapport à la dernière fois où on s'est vu, ben le monde n'a pas vraiment changé, il s'est même plutôt détérioré. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte politique beaucoup plus mouvant qu'il ne l'était la dernière fois qu'on s'est vu. C'est vrai que ce qu'on demande nous souvent, et même depuis toujours, mais tout le monde économique est sur ce sujet-là, c'est de la stabilité. On a besoin de connaître les règles avec lesquelles on va travailler, avec lesquelles, pour être dans la loi déjà, pour connaître les règles, et puis pour pouvoir se projeter sur nos entreprises. C'est pas des mandats de 5 ans, c'est pas des mandats de 7 ans, c'est pas des tous les ans on repasse à des élections. Non, on est sur du long terme, on est sur des entreprises patrimoniales qui durent le plus longtemps possible, 20, 25 ans. Donc pour se projeter sur ce type d'investissement, on a besoin de stabilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles décisions qui ont été prises de dissoudre notre Assemblée nationale et de repartir devant les urnes, ça crée vraiment une instabilité très forte dans le monde économique et notamment dans le monde du bâtiment, sur ces incertitudes qui posent ce qu'on demande, quelle que soit la nouvelle Assemblée qui va sortir, sont toujours les mêmes choses. Mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Nos demandes, elles, n'ont pas bougé, c'est toujours les mêmes. Et sur cette stabilité, on a besoin de connaître les règles et qu'elles soient inscrites dans le temps et qu'elles ne soient pas marquées d'une couleur politique ou d'une autre.
C'est sûr que là, avec les dernières évolutions du marché du travail, le prix des matières premières, les taux d'intérêt et l'accessibilité du crédit, c'était déjà une période de forte tension. Et là, en fait, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé quelque part.
Non, et ce qui nous embête un peu plus encore à la Fédération française du bâtiment, c'est que ça fait 2 ans qu'on alerte nos dirigeants sur le fait qu'on est en train de créer des tensions sociales et économiques dans notre pays, parce qu'on a vu, nous, cette crise arriver. Et on a annoncé, et c'est, étant un secteur important, on n'a pas arrêté de le dire au niveau de nos députés, au niveau de nos gouvernants, que ce soit les ministères, même à Matignon et même à l'Élysée. Et on nous a écoutés en nous disant oui, mais en nous disant, mais on vous croit pas vraiment, donc on va continuer à faire ce qu'on pense être juste, et avec les difficultés économiques aussi des financements, qu'on ne renie pas non plus, sur la capacité à équilibrer des budgets qui est pas facile aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dis, on a que la triste réalité de ce qu'on savait qui allait arriver et qui est en train d'arriver. Donc, pour nous, c'est pas une surprise. Ce qui nous embête, c'est qu'on l'avait dit.
Oui.
On savait que ça allait se passer comme ça.
Vous étiez en capacité d'anticiper.
Il ne s'est rien passé par rapport à tout ce qu'on avait demandé. Et que, on annonce qu'on va perdre 90 000 emplois, nous, sur l'année 2024. On en est déjà à 45. On est à la moitié de l'année. On y sera. Et la perte d'emplois, c'est une hausse du chômage, c'est des pertes de logements, c'est ce genre de choses. Et ça cristallise une tension sociale et économique dans notre pays qui n'avait pas
besoin de l'être.
Exactement.
C'est clair. William Vinant.
Oui, moi je voulais rajouter par rapport à ce que dit Sébastien. Effectivement, au quotidien, on échange avec des élus locaux. On a échangé au quotidien, d'ailleurs, avec des députés de la majorité. Mmh. Puisqu'au passage, des députés de la majorité, on arrive à échanger avec eux. Les autres députés, on les a jamais vus alors qu'on les a toujours invités. Donc ça, c'est quand même, faut le dire, je pense. C'est important de le signaler aujourd'hui, de le signaler parce que notre rôle, c'est de travailler avec tout le monde dès lors où ils sont élus. Mais les députés qui, depuis leur investiture au départ, on les a sollicités, on les a contactés, on envoie systématiquement nos invitations et nos documents. On n'a jamais eu un retour de ces personnes-là. Donc on peut se poser des questions. Non, le vrai sujet, c'est même leur frustration parfois, ces députés locaux avec qui on échangeait, qui comprenaient parfaitement les problématiques et qui malheureusement, à un moment, on peut être et ce n'est pas que ceux du Valois, d'autres députés n'ont pas été entendus par le gouvernement qui avait décidé de passer un petit peu en force parfois, même face à sa majorité. Donc on entend là en ce moment que les partis disent oui, on a peut-être fait une erreur sur le logement, c'est bien. Mais c'est quand même dommage, alors que là, on a eu un travail très constructif sur les territoires et au niveau national avec nos représentants nationaux, notre fédération, on leur a expliqué, on a fait partie des commissions. Et là, on dit, oui, on s'est trompé. À un moment, faut peut-être, c'est notre secteur, mais il y a d'autres secteurs, les agriculteurs, d'autres.
Bien sûr.
Je pense qu'il faut aussi écouter le terrain et des fédérations qui sont structurées, qui sont organisées. L'objectif pour une entreprise de bâtiment comme celle de Sébastien mais comme d'autres, c'est pas de faire des super patrons, des super profits. C'est de créer de la richesse.
Qu'elle soit
effectivement
maintenir les emplois,
permettre de gagner de l'argent entreprise pour qu'elle dure dans le temps, prendre des apprentis, et quand l'entreprise crée de la richesse, elle crée de la richesse pour le territoire avec la TVA, avec le droit de mutation, avec tout ça. Et c'est dommage parce que on a vu Daphné Salon-Michel d'ailleurs avec un sablier du MEDEF organisé par le président Frédéric Anfray qui nous disait, c'est bien, les taux d'intérêt commencent à baisser, la BCE baisse et tout. Donc c'est des messages positifs, ça. Et on avait des premiers soubresauts là pour la partie emprunt.
Absolument.
Avec ça, c'est catastrophique. C'est pas des bons signaux. Et les JO carrières, on entend les marchés. Tout le monde le lit, tout le monde le voit. Donc tout ça c'est pas très positif.
Alors que dit Olivier Salleron, lui qui qualifiait déjà la situation de catastrophique en janvier 2024?
Alors il dit exactement ce que je viens de vous dire, je ne fais que répéter ces mots, on vous l'avait dit, enfin je caricature involontairement, mais c'est un peu sur le ton de l'humour, mais c'est pas si drôle que ça, c'est qu'en effet, on n'a pas arrêté d'alerter et de crier au loup, et on nous a pas écoutés, et je rebondis sur ce que disait William, on a eu vraiment une écoute au niveau des partenaires locaux, élus locaux et tout ça, plutôt une écoute très attentive et qui comprenait tout à fait nos inquiétudes. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de le remonter, et on a été soutenus
par
même des majorités à l'Assemblée, mais qui ont eu la sourde oreille de la part d'actes de loi qui passaient en force en 49.3 parce qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils avaient décidé que c'était comme ça et qu'ils n'allaient pas revenir sur leur copie par rapport à ça. Donc c'est vrai que cette frustration, elle existe quand même en se disant, écoutez le terrain, vous avez des gens sur le terrain qui sont des députés qui sont des élus locaux et qui sont sur leur circonscription pour savoir ce qui s'y passe. Nous sommes des représentants locaux aussi des entreprises locales du territoire. On arrive très bien à discuter. Alors, je reviens sur ce que disait William. Voilà, qu'il soit de droite ou de gauche, on discute avec beaucoup de gens. Il y en a d'autres qui veulent pas nous écouter, qui veulent surtout pas nous entendre. Ça, on trouve ça dommage parce que nous, on veut discuter avec tout le monde.
Oui, d'étiquette.
On a aucune étiquette et on est très neutre en politique. Après, on sait qu'il y a des gens qui ont plus de mal à discuter avec nous parce qu'on représente un syndicat patronal.
Oui.
Mais faut pas voir les patrons de la FFB comme des grands patrons qui vont chercher des super profits. On est des coordinateurs sociaux qui, autour des PME que nous organisons, faisons vivre du monde. On paye des salaires, on paye des charges, on paye de la TVA, on forme des gens et on s'adresse à une catégorie de population. Alors ça, c'est j'en suis plutôt triste, mais au contraire, on s'adresse à tout le monde. Oui. Donc même des gens qui sont plutôt en échec scolaire et tout ça, ils ont des carrières à faire dans le bâtiment. Donc on est capable de leur proposer des postes et des carrières là où sur d'autres secteurs c'est plus compliqué de les intégrer. Donc on fait partie de cette vie sociale de notre pays et de notre département. Donc on peut parler avec tout le monde et on veut parler avec tout le monde. Certains veulent nous écouter parce qu'on leur apporte en effet quand même un certain éclairage. D'autres font la sourde oreille. Bon, ça c'est leur choix. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, au niveau local, on était très contents d'une certaine partie des députés d'avoir des vrais échanges, même si ça restait bloqué. Et ben là, on va repartir de zéro, puisque enfin, on verra les résultats le 7 juillet. Et on fera le boulot qui est le nôtre, c'est-à-dire de féliciter l'ensemble des élus parce qu'ils représentent des élus, ils ont été élus pour ça, et de leur proposer qu'on se rencontre pour qu'on puisse échanger.
Merci Sébastien. Je propose qu'on fasse une pause avant de continuer sur ce débat très intéressant. À tout de suite.
Il y a toujours trop de bruit, pas trop de silence, plus y a de monde ici, plus vide et dimanche, j'ai plus envie de rester, je veux rentrer, je veux rester, je veux rentrer, mais qui sait, et je pleure, dans ma tête, j'ai jamais le cœur, à la fête, j'ai plus envie de rester, je veux rentrer, je veux rester, je veux rentrer, j'en ai marre de jouer, j'ai envie de tout laisser tomber. I feel like a zombie, I'll die at the party. Yeah, you'll find my body fully covered in confetti. I'll try calling somebody to tell them come get me. But you'll find my body fully covered in confetti. Singing la da 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 da. Sinon, SOS, salut tout le monde que je déteste. J'ai plus envie de rester, je veux rentrer, je veux rester, je veux rentrer. Mais qui sait, moi je cherche toujours mes mots, mais je les trouve dès que je détourne le dos. Là je voudrais tout casser, ce serait mal, ce serait bien. C'est pas normal, je me retiens, j'enfonce mes ongles dans mes mains. I feel like a zombie, I'll die at the party. Yeah, you'll find my body fully covered in confetti. I'll try calling somebody to tell them come get me. But you'll find my body fully covered in confetti. Singing la da 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 da. Regarde les gens, ils sont fous. Regarde les gens, ils sont fous. Regarde les gens, ils sont fous. Regarde-les, ils sont partout. Regarde les gens, ils sont fous.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et pour cette spéciale Fédération française du bâtiment du Val d'Oise, je reçois ce matin Sébastien Ramey, président de GTPR, une entreprise dans le bâtiment et aussi président de la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise, William Vinan, secrétaire général de la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise. Alors, Sébastien, vous m'avez tendu un petit peu une perche en parlant de ces jeunes que vous alliez chercher, des jeunes même qui n'avaient pas forcément de diplôme ou qui pouvaient être en échec scolaire. Et je crois que vous avez longtemps été chercher, puisque bon, on sait qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, hein, d'hommes et de femmes. Et il me semble que vous intervenez facilement dans les missions locales, les collèges, les lycées, pour trouver des emplois.
Tout à fait, oui, non, c'est exactement ça. Enfin, c'est vrai que économiquement aujourd'hui, la situation est un peu plus délicate, mais oui. On a toujours fait depuis que je suis moi dans mon entreprise, en tout cas, et à la Fédération française du bâtiment. Donc, ça fait quelques années. On est toujours intervenu dans les collèges, dans les lycées, dans les CFA pour promouvoir les métiers du bâtiment. C'est vrai que l'image des métiers du bâtiment est en train de se redorer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était pas un secteur qui était forcément des plus porteurs, et on a fait des opérations depuis une dizaine d'années qui étaient les 10 000 bâtisseurs. C'était la volonté d'embaucher 10 000 personnes sortant des QPV, des quartiers prioritaires de la ville, dans le monde du bâtiment, ce qu'on a réussi à faire. Après, on avait passé aux 15 000 bâtisseurs, c'était par an, dans le monde du bâtiment. Les 15 000, on les avait maintenus
là-dessus. Des challenges qui ont été tenus
depuis, je crois, les années 2011-2013, et à la fin, aujourd'hui, depuis cette période-là, c'était 200 000 personnes qu'on avait réussi à intégrer dans nos entreprises. Bravo. Parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, parce qu'on avait besoin de former des gens, et parce qu'on a intégré ces gens-là dans le bâtiment, et c'est des gens aujourd'hui qui étaient intégrés. Actuellement, ce qu'on a annoncé, c'est que là, on était en train plutôt de perdre des emplois. Alors, on recherche toujours des gens qualifiés, mais c'est vrai que l'ouverture à l'embauche de nos entreprises aujourd'hui est plutôt en suspension. On prend un peu de temps pour voir ce qui va se passer, notamment sur l'équilibre politique, mais aussi surtout sur la réalité économique des chantiers qu'on va vraiment sortir. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins tendance à proposer des emplois là où on devrait continuer à faire ce genre d'opération pour toujours intégrer. Par contre, on est toujours en effet dans la promotion de nos métiers du bâtiment. Ça, on le fait toujours avec plaisir pour expliquer ce que sont les métiers du bâtiment. C'est plutôt la capacité à offrir des offres dans nos PME. Où on est plutôt attentiste actuellement.
C'est différent aujourd'hui, oui, c'est sûr. Mais bon, sachant que dès que on le souhaite, bien sûr, que dès que la situation économique s'améliorera, vous lancerez à nouveau ces offres d'emploi, forcément.
Le but du jeu, moi, c'est ce que je dis à mes salariés, c'est aujourd'hui, c'est de se séparer de personne, puisqu'on sait quand ça va redémarrer, que ça va redémarrer très vite. C'est comme ça dans le bâtiment, souvent, que ça redémarre. Et que là, on aura besoin de tout le monde, et notamment des gens compétents qu'on a déjà formés. Donc, si vraiment on est dans une période aujourd'hui assez morose, c'est plutôt de jouer sur les réserves de l'entreprise, en effet, pour passer cette vague, et savoir que quand ça va redémarrer, la vraie question, c'est quand.
William Vinant.
Oui, moi je voulais rajouter sur ces opérations 10 000, 15 000 bâtisseurs. Les 10 000 bâtisseurs, c'est un président du Val-d'Oise qui les a menés au niveau national, qui a porté le projet. Et c'est en Val-d'Oise qu'on a fait, avec devant la Seine-Saint-Denis, les meilleurs résultats d'entrée de jeunes de QPV, donc de secteurs d'Argenteuil, Beson, Gonesse, Goussainville, des secteurs en fait où on a peu de rencontres là-bas pour le coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et c'est là-bas qu'on a intégré le plus de jeunes, parce que c'est là-bas qu'il y a plus de QPV, et Sergi aussi. Et ce président...
Oui, mais ça n'empêche que votre opération a été positive.
Ah, mais elle était ultra positive. Voilà, c'est ça. Pour rejoindre ce que disait Sébastien.
Ouais.
Nous, on travaille pour les secteurs géographiques, pour notre secteur d'activité et pour la jeunesse et créer de la richesse.
Discours est vraiment complètement bien.
Et on a fait ensuite l'opération 15 000 bâtisseurs, qui a été relancée par Olivier Salron. Et cette opération 15 000 bâtisseurs, le témoin, il a été à nouveau passé à un président du Val-d'Oise.
D'accord.
Sébastien Tavaux, qui était devenu l'opérateur. Et là, on n'a pas fait 15 000, on a fait 23 000. Et le Val-d'Oise a toujours été le deuxième département. Ouais. Donc ça, je tiens à le dire quand même, parce que c'est une fierté en Val-d'Oise d'avoir fait ce travail, d'avoir porté ces projets, avec deux présidents issus du Val-d'Oise qui ont porté le projet au niveau national. Mm-hmm. Donc je tiens à le dire. Puis au passage, je fais un petit clin d'œil quand même, parce qu'il est trop... il n'osera pas le dire, mais à son père, donc le père de Sébastien, Patrick Ramé, qui a été le premier président à porter l'opération, et qui, à l'occasion du congrès de Marseille, a reçu une plaque pour toutes les actions qu'il a menées au sein de la Fédération du bâtiment au niveau local, donc départemental, régional, mais aussi national. Bravo à Patrick pour tout ce qu'il a fait pour le Val-d'Oise.
Une vraie reconnaissance, William. Et bravo et félicitations donc à Patrick Ramé. Alors, donc, bien sûr, cette émission, elle est un peu morose puisque c'est l'ambiance qui veut ça. Vous vous attendez donc à une hausse des défaillances, d'où votre mobilisation à soutenir les chefs d'entreprise qui vont se trouver dans cette situation, Et vous faites notamment appel à APESA, que nous connaissons bien chez IDFM Radio. C'est-à-dire APESA voulant dire aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Donc je vous laisse développer cet aspect, Sébastien.
Alors oui, donc il y a plusieurs choses. Déjà au niveau de la Fédération française du bâtiment du 95, on continue à faire des adhésions.
D'accord.
Ça veut dire que dans ces temps de crise, en effet, on reconnaît la nécessité de se faire aider. Déjà,
votre confiance n'est pas mise en
la fédération. Voilà. Et au contraire même, c'est souvent des entreprises qui sont parfois en difficulté qui disent qu'ils ont besoin d'une aide sur ce plan comptable, fiscal, social, et qui viennent adhérer parce qu'ils justement ils sont dans une impasse économique et qu'on peut les aider sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que souvent c'est aussi en temps de crise qu'on aperçoit que l'intérêt de la fédération auprès de nos adhérents est vraiment utile. Alors c'est pas forcément un bon indicateur parce que parfois derrière ça peut amener à une défaillance puisque le sujet a été pris un peu tard nous concernant. Mais oui, en effet, c'est vrai que aujourd'hui on observe dans les radiations que nous avons au sein de notre fédération beaucoup de défaillances d'entreprises. C'est l'une des seules raisons pourquoi on quitte la Fédération française du bâtiment du Valois, enfin et la FFB au niveau national. C'est parce qu'en fait l'entreprise disparaît. C'est très rare les gens qui partent de la fédération de leur plein droit en disant finalement on estime que le service n'est pas à la hauteur de ce qu'on nous demande. Donc c'est vrai que on a des défaillances. On va croiser très prochainement le président du tribunal de commerce aussi pour échanger là-dessus. Et c'est vrai que donc APESA, on est partenaire d'APESA. Parce qu'on y croit, parce qu'on pense qu'on en a vraiment besoin, que c'est une super association qui arrive vraiment sur les... La souffrance du dirigeant, elle est compliquée, hein, même quand ça va bien, on parle de la solitude du dirigeant.
Tout le temps, oui.
Et tous ces syndicats patronaux sont là pour se soutenir déjà entre nous, puisque on ne peut pas comprendre ce que vit un dirigeant si on n'est pas un dirigeant soi-même. Vous avez beau avoir des très bons amis ou des gens très proches, s'ils ne sont pas patrons d'entreprise, on ne peut pas partager les mêmes inquiétudes, les mêmes incertitudes, les mêmes difficultés, voilà, sur l'avenir. Et c'est le but vraiment aussi de la FFB 95, c'est de rompre la solitude du dirigeant pour pouvoir échanger avec ses pairs des difficultés. On s'aperçoit en effet qu'on a tous les mêmes et qu'on y arrive tous à s'en sortir avec ça. Donc ça nous rebooste plutôt quand on se retrouve là-dessus. Mais APESA fait partie, en effet, on est partenaire d'APESA parce que quand ça va vraiment pas bien, là on a besoin de professionnels qui vont vraiment prendre soin du dirigeant et de sa santé mentale. Et là, on n'est pas, on peut discuter, échanger, mais on n'est pas des professionnels.
C'est ça, oui. Ce sont des psychologues qui prennent en charge.
Voilà, un soutien psychologique vis-à-vis de nos adhérents et pas que, hein. Mais c'est voilà.
D'ailleurs, on peut peut-être lancer un appel, hein, à ces dirigeants qui.
Ce que je voulais faire, parce qu'il faut toujours profiter de ces moments où on passe sur les ondes. Sébastien l'a très bien résumé. Le dirigeant, parfois, il est complètement seul. Puis il va pas en parler à ses amis, il va pas en parler à sa femme, il va en parler à personne. Et puis malheureusement, certains commettent l'irréparable et plongent toute une famille, des amis, dans une profonde tristesse. Donc, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que APESA est là pour tout le monde. Qu'on soit, alors là, on va parler pour notre secteur d'activité, bien entendu, mais au sein d'APESA est représenté aussi le MEDEF, est représenté la Chambre de Métiers, la CPME, la CCI, et de fait. Ça s'adresse à toutes les professions, parce que je suppose qu'en ce moment, les magasins, effectivement, d'habillement avec l'arrivée, c'est une catastrophe aussi. Des restaurateurs, il y a plein de personnes peuvent être concernées par des fois ces difficultés. Et moi, je peux témoigner que ça marche bien parce qu'il y a de ça quelques années avant Covid, j'ai eu un jour l'appel d'un dirigeant qui m'a dit William, comment ça se passe pour APESA? Et alors, j'étais déjà content qu'il m'en parle. Et donc je lui ai donné les coordonnées. J'ai appelé le président.
Oui, à l'époque c'est toujours Gérard Maury.
C'est toujours Gérard Maury qui fait un travail formidable. Oui. Et j'ai appelé Gérard. Il me dit pas de souci. Tu appelles le psychologue. Donc voilà, parce que je suis sentinelle, c'est-à-dire qu'une personne peut m'appeler. Et je fais le relais. Il y a des sentinelles identifiées.
Très bien. Ah je ne savais pas. Oui.
Et donc j'ai fait le lien donc avec le psychologue et j'ai donné les coordonnées. Et j'ai dit donc à mon chef d'entreprise, je suis d'ailleurs le seul à savoir qui c'était, voilà. Et j'ai dit tiens, tu vas être appelé, s'il te plaît, et ça s'est très bien passé. Et le chef d'entreprise a arrêté son entreprise, mais va très bien aujourd'hui. C'est donc, j'espère que ça a servi. Et voilà, tant mieux. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert. Et c'est totalement gratuit.
C'est ça.
Pour le chef d'entreprise qui appelle l'artisan, voilà, il y a aucun problème. Ce sont donc des organismes comme nous, la FFB, mais d'autres, la Chambre de métiers, la CCI, le MEDEF, qui cotisent à cette structure et qui paient de fait des psychologues. Il y a une mutualisation locale et ensuite nationale.
Oui.
Et ça permet effectivement d'avoir des psychologues. Payer d'avance, si je puis dire, pour répondre aux besoins et, le cas échéant, envoyer vers un traitement. Voilà, donc faut le signer, c'est très important.
C'est ça, vous avez bien résumé le thème, c'est-à-dire des entrepreneurs en difficulté, voire en détresse, repérés par des sentinelles dont vous faites partie, William, et bravo. Et puis, du coup, la PESA 95 prend une partie en charge de 5 consultations gratuites.
Exactement.
Pour rebooster ces personnes qui, des fois, sont amenées à commettre l'irréparable, comme vous l'avez bien dit. Aujourd'hui, Sébastien et William, qu'est-ce qui pourrait remplir les carnets de commandes ?
Alors, les carnets de commandes sont pas si mauvais que ça. C'est surtout le délai. Non, mais c'est le.
D'accord.
Faut dire que c'est plutôt une.
C'est une situation complètement.
C'est un
atypique, quoi.
Voilà, ça, c'est-à-dire que on nous demande de chiffrer. Alors non, vous avez raison. Les carnets de commandes sont pas si remplis que ça. Mais par contre, les projets existent. C'est ça que je voulais dire. Donc la prospection, elle existe. Il y a des projets. Par contre, c'est quand est-ce qu'on lance le projet, quand est-ce qu'on le fait. On avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu des Jeux Olympiques et c'est vrai qu'aujourd'hui pour nous le gros œuvre, les travaux JO puisqu'on en a profité sont réalisés et non plus de réalité pour nous petite entreprise de bâtiment. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui il y a plein de projets dans Paris qui nous disent on va attendre le mois de septembre. Et qu'est-ce qu'on fait d'ici là ?
C'est ça.
C'est compliqué. Et moi, à titre personnel vis-à-vis de mon entreprise, je réponds à des appels d'offres, à des consultations. On me dit bien, c'est pas pour tout de suite, c'est pour après les JO, puisqu'on va laisser passer les JO. Et voilà. Mais il n'y a pas que les JO qui sont ces points. Il y aurait que les JO, on serait voilà. Mais parlait de stabilité tout à l'heure. Voilà, l'instabilité politique aussi peut être un sujet d'attentisme en disant on va attendre. Et puis il y a toujours aussi cette petite ritournelle sur laquelle on essaye de se battre aussi sur la validation des permis, des autorisations de construire, ce genre de choses, ces dossiers qui prennent du temps et qui peuvent être un peu coincés sur un bureau alors qu'il n'y a aucune raison qu'il le soit pour qu'on puisse libérer un petit peu l'acte de construire, l'acte de bâtir, l'acte de rénover, là où on nous demande beaucoup d'autorisations et beaucoup de validations, on va dire, administratifs qui sont pas forcément légitimés, qui demanderaient autant de paperasse, on va dire, par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est plutôt un attentisme là-dessus. Mais ce qu'il faut, c'est que on le sait, c'est que les taux rebaissent. Il faudrait que au niveau de l'investisseur privé, on arrive à définir ce fameux statut qui sont le fruit de toutes ces dernières lois qui favorisaient l'investissement privé à titre locatif. Il faudrait vraiment qu'on arrive à instaurer ce statut du bailleur privé, mais dans le temps, je veux dire, on arrête les dogmatismes politiques par rapport à ce sujet-là. Et pour ceux qui ont un peu d'argent de côté et qui veulent investir, que l'investissement dans l'immobilier soit une des portes de sortie pour cet investissement en capital et qu'il soit aussi rentable que des investissements dans la bourse, sur les marchés financiers ou sur de l'assurance vie. Et ça, vraiment, on le demande, que ce soit des gouvernements de droite et de gauche. Et à chaque fois, c'est modifié, c'est des investissements longs, hein, c'est sur des 25 ans, donc on a besoin de cette stabilité-là, la baisse des taux, et on voudrait aussi un arrêt un peu des évolutions normatives vis-à-vis des normes de construction. Aujourd'hui, on veut construire plus vert pour répondre aux exigences écologiques, c'est une très bonne chose, on est vraiment pour. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il y a une urgence climatique qui nous fait faire des urgences normatives, mais on n'est pas organisé pour y répondre. Quand je dis organisé, c'est le marché qui n'est pas. C'est-à-dire que nous savons faire. Il y a une réflexion. Le construire vert, on sait faire. C'est pas plus dur que ça. Par contre, ça coûte plus cher.
C'est ça. On en parlera tout à l'heure.
Exactement. Hein, donc, si ça coûte plus cher, faut que les gens soient capables de mettre plus cher pour construire. Et aujourd'hui, c'est pas dans les normes. C'est pas les ratios de construction qu'ils ont. C'est pas les ratios de rentabilité que on les investit. investisseurs par rapport, voilà. Donc il faut que tout ça se mette en place gentiment. Donc faire un petit stop justement ou décaler dans le temps un petit peu l'évolution de ces normes écologiques, on serait plutôt pour faire souffler un peu le marché et repartir sur une tendance d'organisation qui permette de lancer les marchés et de construire, bâtir, rénover, entretenir.
Vous parliez des bailleurs privés et quel est le rôle des bailleurs sociaux alors pour le coup dans ce...
Ben les bailleurs sociaux c'est peut-être encore les seuls qui jouent encore le jeu parce qu'ils ont des enveloppes à dépenser. Mais c'est sur des projets qui sont pas forcément ficelés, c'est sur des projets qui sont pas forcément aboutis, sur lesquels ils vont buter sur des autorisations administratives qu'ils vont pas avoir, ils vont buter sur des normes, sur des ZAN zéro artificialisation. Oula.
Zéro
artificialisation nette des sols, excusez-moi. Donc c'est une loi qui nous demande, mais qui est une bonne loi, c'est pareil. Hein, l'esprit est très bon, mais on demande un peu de souplesse par rapport à cette dernière pour continuer à développer un territoire. Et dans le développement du territoire, la construction en fait partie. Donc on a besoin, notamment pour les bailleurs sociaux, d'avoir le droit de construire des logements dans des endroits qui sont intéressés par personne, mais qui sont aujourd'hui des zones vierges, donc qui rentreraient dans ce ZAN. Si c'est pas des terres agricoles qui sont déjà exploitées, on peut peut-être déroger à cette loi-là. Alors après, nul n'est censé ignorer la loi, et si la loi ne s'applique pas, il n'y a que des exceptions, elle ne sert à rien. Donc tout ça, c'est à voir au cas par cas. Mais c'est vrai que on demande plutôt une compréhension du bon sens par rapport au projet là-dessus. Donc non, les bailleurs sociaux, William, t'as peut-être quelque chose à dire là-dessus.
Oui, William.
Oui, alors les bailleurs sociaux, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que ils ont quand même tiré la construction comparativement à la promotion, parce que la promotion elle a pris de plein fouet la problématique des taux, des remises en cause de projets et autres. Mais effectivement, les bailleurs sociaux, ils ont une problématique, c'est que des villes ont une difficulté aussi à trouver des fois des espaces pour pouvoir construire quelque chose qui va être rentable, parce que la rentabilité d'un projet social
est compliqué,
ne l'est que dès lors, comme le coût de location est moins élevé, il faut soit une surface plus importante, soit effectivement un projet qui va intégrer du privé dedans ou avec une taille plus grosse. Bon, et ça c'est pas simple à trouver sur toutes des parcelles. On a des communes où c'est pas toujours possible. Donc peut-être raisonner au niveau de la communauté de communes, quelque chose de plus large. C'est le principe des PLU désormais qui sont effectivement à l'échelle communautaire plutôt qu'à l'échelle que de la commune. Mais pour revenir au zéro artificialisation net, il y a un point quand même, c'est faut le dire, faut que les gens l'entendent. Aujourd'hui, le dogmatisme qu'il y a eu là-dessus est absolument incroyable. Faut savoir que beaucoup de projets ont fait des projets avec des jardins.
Oui.
Des jardins qui sont des jardins où l'eau s'infiltre. Aujourd'hui, le dogmatisme fait que c'est considéré, même si le projet considère un jardinet de 100-120 mètres carrés, c'est un projet d'artificialisation des sols. Alors que c'est un jardin où l'eau va s'infiltrer.
Oui.
Donc à un moment, moi je veux bien tout entendre, je remise tout, mais c'est pas des dalles quoi. C'est pas des dalles, on va récupérer l'eau, tout ça. Dans ces endroits-là, il y a de la vie. Les personnes font un petit potager, les personnes ont une pelouse, il y a des insectes, les personnes effectivement vont peut-être mettre des ruches pour les abeilles,
biodiversité,
les insectes. Ils vont mettre un arbre fruitier, ils vont mettre autre chose, voilà. Donc ça, c'est pas de l'artificialisation des sols. À un moment, donc les projets se bloquent dans ce cas-là. On fait pas de projet, voilà.
Oui.
Donc faut être cohérent à un moment, c'est. Et puis alors, juste pour revenir quand même sur un petit sujet, cette lisibilité, on en a besoin. La prime rénov, c'était une vraie galère en fin d'année. On nous a dit, il faut mettre un accompagnateur pour tous les projets. Ah, puis non, puis finalement, non, pour une chaudière, non, on va pas mettre un accompagnateur parce qu'il n'y a pas le personnel. Mais évidemment, les grands projets, oui, pourquoi pas? C'est intéressant d'avoir une personne, un bureau d'études qui va qualifier le projet. Mais pour changer une chaudière, une fenêtre, on n'a pas besoin d'un accompagnateur rénov, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que ça démarre au 1er janvier, ça démarre au 15 mai. Et donc, on vous dit, après, vous faites pas l'enveloppe. Ouais. Charriez pas trop les gars quand même quoi, parce que je veux dire, pendant 4-5 mois, il y a rien eu du tout quoi. On se demande d'ailleurs, moi je vais être très clair, si ça n'a pas été fait exprès, parce que pendant 5 mois les crédits n'ont pas été consommés. Voilà. Maintenant on va dire faut le faire en fin d'année.
On peut
le faire en fin d'année.
Un
entrepreneur qui a deux mecs, il va pas les faire bosser 24 heures, hein, c'est pas possible. Donc là, à un moment, faut un peu de clarté. Et donc cette prime rénov, nous on demande, comme on a eu que 5 mois de manger, et ben on demande à ce qu'elle soit reproduite l'année prochaine. Et ça, c'est très important pour la rénovation des bâtiments.
À l'identique.
À l'identique. On change rien.
Et vous allez l'obtenir.
Ah, mais c'est ce qu'on demande. Ah,
mais vous l'avez pas obtenu encore.
Bah, sur ton fond, on n'aura rien du tout. Il y a plus de gouvernement.
Ce sera dans la loi de finances portée par le nouveau gouvernement avec la nouvelle majorité. On ne sait pas.
Si
et ça, c'est des projets où nous, on est apolitique là-dessus.
Si
on sait ce qu'on demande.
Si le budget est présenté, défendu, c'est encore un autre problème. Je vous propose qu'on fasse une pause parce que on a parlé quand même d'une ambiance un petit peu morose, mais il se passe aussi des choses très sympathiques au sein de la FFB et on va aborder ce sujet là dans quelques instants. À tout de suite.
Let's move in gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move in gay. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa.
Joignez jusqu'à 11h, c'est l'économie en direct avec au sommaire ce matin une spéciale Fédération française du bâtiment du Val d'Oise en compagnie de Sébastien Ramé, président de cette fédération et président de l'entreprise GTPR et William Vinant, secrétaire général de la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise. Alors dans les choses qui fâchent, Sébastien, comme ça on aura fait le tour. La semaine dernière, la semaine dernière a eu lieu votre congrès à Marseille, qui s'est tenu donc jeudi et les 14 et 15 juin. Et dans ce congrès, deux sujets ont été évoqués, l'apport de l'intelligence artificielle, mais aussi cette fameuse REP, dont vous nous aviez déjà pas mal parlé la dernière fois, Sébastien. Donc là, quels sont les Y a-t-il des avancées?
Ah oui, alors l'image de la REP, c'est vraiment l'exemple type du dysfonctionnement vraiment parfois de l'État. Ça part d'une très bonne idée et on était partie prenante de cette bonne idée, c'est-à-dire qu'en effet le traitement du recyclage des déchets soit pris en compte dès la conception et de la mise en marché des produits. Sauf que pour mettre en place cette REP, il fallait déjà prendre une taxe pour commencer à la financer pour qu'après elle soit revenue. Donc il y avait une phase temporaire qui se déroule actuellement, hein, qui permettait de mettre en place cette REP. Sauf que à partir du 1er mai 2023, cette taxe est bien arrivée sur nos factures, ça on l'a bien vu. Sauf que derrière, tout le déroulement et toute la mise en œuvre n'est pas du tout à l'échelle du planning qui avait été défini. Clairement, ça ne marche pas. On a créé 4 éco-organismes. Quand je dis on, c'est l'État, hein, pour justement collecter cette taxe et pouvoir la redistribuer. Alors, ils collectent très bien, mais aujourd'hui, sur le déploiement et la mise en œuvre. Donc, nous, on se retrouve, entreprise du bâtiment, à payer deux fois, c'est-à-dire à payer la taxe et à toujours payer le traitement de nos déchets qu'on faisait bien avant.
Hein. C'est ça.
On recyclait déjà entre 85% de nos déchets. On n'était peut-être pas les plus vertueux, mais on faisait attention à ça et ça avait un coût, hein, dans notre vie. Il faut savoir que on avait bien pris conscience, bien avant tout le monde, que le traitement de nos déchets, vu les quantités de déchets qu'on produisait, était un sujet qu'il fallait sur lequel on fasse attention. Et là, en fait, l'État n'a pas du tout pris en compte le volume qu'il y avait à traiter, et on se retrouve aujourd'hui à essayer d'organiser, comme des petits bricoleurs du dimanche, le traitement de nos déchets quand vous avez un meuble que vous venez de mettre chez vous et les 3 déchets qu'il y a derrière, comme on les traite, non? Sur des chantiers de rénovation comme les nôtres, les déchets sont dans des échelles beaucoup plus importantes. Donc c'est vrai qu'au niveau de la FFB, actuellement, on a fait un recours contre l'État. C'est assez rare, hein, normalement on est plutôt un partenaire actif dans lequel on est capable de discuter, mais là on a estimé vraiment que trop c'était trop, parce qu'on devait participer en tant que Fédération Française du Bâtiment à des organismes de surveillance, et on n'a jamais été convoqué à ces conseils d'administration de ces éco-organismes. C'est fait dans leur coin, c'est fait par des technocrates qui n'ont aucun retour du terrain, donc nous on leur remonte toutes les informations, on n'a pas de réponse, donc on a fait un recours contre l'État en demandant à ce que soit mis en place la REP telle qu'on l'avait définie et qu'ils activent un petit peu, parce que pour l'instant on se retrouve sur un délai qui devait durer 3 ans, c'était le délai de transition entre on paye une taxe et à la fin nos déchets sont gratuits, et là on n'est même pas au quart de la feuille de route, donc on se dit on va pas continuer 10 ans comme ça, nous, à payer cette taxe et ne pas que nos déchets soient pas pris en compte et continuer à régler ça. Mais ils sont pas appuyés sur les professionnels du déchet.
C'est ça, oui.
On nous a pas interrogé sur le mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, moi, je participe à cette
personnelle. Vous auriez dû faire partie de la...
Je participe parce qu'il y a des demandes faites auprès de la Fédération Française du Bâtiment de la part de ces éco-organismes aujourd'hui pour faire des tests.
Oui.
Et là, c'est à titre personnel, GTPR, mon entreprise, participe à ces tests parce qu'ils sont bien conscients qu'en fait ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc c'était ça, voilà, il y avait une bonne idée, ils ont eu des idées dans un bureau, ils ont même pas pris le temps d'interroger vraiment les professionnels du secteur pour voir comment on pouvait la mettre en œuvre. Donc c'est vrai que là-dessus c'est aussi un sujet aujourd'hui qui fâche, et on en a parlé en effet dans notre congrès national à Marseille, en disant qu'en effet il y avait vraiment un recours contre l'État pour que soit mis fin au dysfonctionnement scandaleux du dispositif et que nous disposons d'un droit de regard sur la collecte et l'utilisation des éco-contributions. Alors je parle de taxes, hein. William m'aurait repris, mais ce ne sont pas des taxes, ce sont des éco-contributions, c'est-à-dire que là-dessus il y a une TVA en plus, ce qui permet à l'État de... mais ça nous dérange pas si c'est...
Si c'est bien redistribué.
Sur ce point-là, ça fait de manière très intelligente, voilà. Et là, notre patience vraiment n'a que trop duré, donc c'est vrai qu'on est... on demande juste à participer à cette REP, on en est un acteur majeur et on sait comment ça fonctionne. On le faisait d'une autre façon avant. On est capable d'aider à la mettre en place, mais faut nous écouter.
Il faut vous écouter. Et ce recours, il a été déposé quand?
Il a été déposé au mois de juin.
Au mois de juin, donc c'est très récent.
Donc c'est très récent, on va attendre les réponses. On n'est pas sûr que les ministères soient sur le...
Oui, en ce moment,
sur ce sujet-là, actuellement. Mais bon, au moins, nous, ça a été déposé.
Bien. Bon, on passe
au... Juste pour compléter ce que dit Sébastien, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit au départ sur le logement en général. C'est-à-dire que le terrain, nous, entrepreneurs et représentants d'entrepreneurs, on a fait remonter des éléments. On a dit, attention, ça va pas marcher comme ça. Ça marchait déjà bien avant, ça ne va pas marcher. Parce que qui est à la manœuvre derrière la REP, c'est surtout les fédérations de distributeurs et les grands groupes. et les grands groupes industriels. Voilà. Mmh. Parce que, un, ils vendent, deux, ils récupèrent et ils recyclent. Donc voilà, chercher l'erreur. Aujourd'hui, tous ceux qui sont les personnes qui utilisent payent deux fois. Donc il y a quand même un petit sujet.
Oui, il y a un vrai problème.
Voilà, clairement. Donc on a dit, ok, pour la logique d'éco-organisme, sauf que on veut juste être partie prenante sur les discussions et c'est vraiment le sens de ce recours. Voilà.
Arrêter de payer pour
non, mais payer et participer, c'est pas un problème. Enfin, on est d'accord sur le principe, mais dans la mesure où on a un service.
Vous payez deux fois,
quoi. Oui, là, si on paye deux fois, ça marche pas. On paye pour un service, pour une taxe, où on participe à un effort collectif. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce service, il soit efficace, il soit efficient et puisse être fonctionnel. C'est pas le cas, là.
Alors, on attaque les nouvelles un petit peu plus agréables, donc notamment le prix de la construction durable. William, je crois que vous avez quelques
des
annonces à nous faire.
Voilà, on a remis ce prix du palmarès de la construction durable. Alors, la construction durable, alors ce prix existe en fait en Val d'Oise depuis 2008. Donc, c'est quand même une démarche qui est longue et historique. C'est une démarche qui était faite au départ entre deux structures regroupées au sein d'une seule. En l'occurrence, les architectes indépendants du Val-d'Oise, l'UNSA Val-d'Oise, et la Fédération française du bâtiment Val-d'Oise. C'était une démarche volontaire, il faut rendre à César ce qui appartient à César, à Pierre Taveau et à Jean-Claude Monti, qui tous les présidents ensuite ont fait perdurer, et avec des représentants, donc des architectes du Val-d'Oise. Ensuite, on a proposé au CAUE du Val-d'Oise, donc de nous rejoindre, parce que ça avait du sens, ils sont effectivement sur le terrain, ils sont à l'écoute des projets de territoire, et souvent des particuliers viennent les voir, ou des communes, pour les aider dans la réalisation de leurs projets. Donc tout ça avait du sens, et donc on a créé le prix de la construction durable. Alors pourquoi prix de la construction durable? Parce que construction répond à tout le monde, parle à tout le monde. Si on avait commencé à dire prix de l'architecture durable, prix du bâtiment durable, c'est plus les uns. Construction, c'est pour tout le monde pareil, on se comprend parfaitement. Et pourquoi durable? Alors pas que dans le vert, justement. Faut arrêter de faire du greenwashing. Non, pour nous, durable, c'est durable dans la relation entre les hommes, entre les entreprises, entre le maître d'œuvre, entre le maître d'ouvrage, et que ce soit durable pour les gens qui l'utilisent. Voilà.
Bien sûr.
En fait, faut que ce soit durable dans cette logique-là. Alors, si après, ça répond à des problématiques environnementales, de toute façon, ça, c'est le cas, ben, c'est très bien, mais c'est ça, la durabilité, telle qu'on l'entend chez nous, dans ce prix, en tout cas. Donc oui, on a remis, on a vu des beaux projets, des très beaux projets. D'ailleurs, il y en avait beaucoup, il y avait 22 projets qui ont candidaté, preuve du succès du prix. Mais à un moment, il faut faire un choix, on peut pas faire 22 visites. Parce que les visites, on les fait donc à une douzaine de personnes. Dans ces représentants, donc on a des personnes du CAUE, de la Fédération, de l'UNSFA. Mais on a aussi des personnes externes, comme le CEVO. On a aussi l'Ordre des architectes. Et on a aussi, depuis quelques temps, les architectes des bâtiments de France. C'est bien de les proposer participer, parce que ça leur permet de se rendre compte des fois que une décision qui peuvent un accord ou un non-accord, on va dire, les problèmes que ça peut poser, quoi. C'est bien qu'ils se rendent compte sur le terrain de la problématique rencontrée.
C'est ça
qui
a un regard croisé.
Et j'avoue que on va peut-être pas les faire changer toujours d'avis, mais en tout cas ils prennent conscience que des fois c'est pas si simple de faire ce qui est demandé, et que finalement on peut peut-être faire un peu différemment. Mais globalement, ça se passe bien. Donc, deux jours de visite à raison de 8 visites par jour. Ça a été long.
Ah oui, c'est un vrai.
Des visites qui durent trois quarts d'heure,
à peu près.
Un vrai marathon. Ça démarre à 8h, ça finit à 18h, et le jour de la clôture, ça termine à 20h30. Donc, on nous dit, oh, mais c'est des visites. Non, c'est des visites au pas de course. On regarde tout. On essaie de poser le plus de questions possible. On rencontre, la plupart du temps, les élus en charge du projet ou le maître d'ouvrage privé lorsqu'il est là. Et qui nous donne tous les détails. Donc cette année, il y avait 4 catégories. On a fait il y avait le prix du logement collectif, le prix de l'équipement, donc là plutôt public, et le prix du logement individuel. Et on a fait une mention spéciale rénovation, parce que la rénovation, c'est quand même un chantier très important demain, notamment sur les grands ensembles. Alors, je débute par ça, parce que on n'a pas fait un prix, là. On a fait une mention spéciale, donc une rénovation qui a lieu à Sarcelles, sur une grande barre. Rénovation, donc en site occupé. Donc c'est compliqué en logement social,
en
site occupé.
Oui,
attention,
oui.
Ça s'est très bien passé, donc ça faut le dire, parce qu'il y a une prise en compte des problématiques des personnes qui vivaient. On les a écoutées, on leur a donné des solutions. Tout simplement pour aller aux toilettes, pour se doucher le matin. Enfin voilà, toutes ces choses-là, ça s'est bien passé. il y a une bonne prise en compte de tout cela. Donc ça, c'est à Sarcelles, une très belle rénovation donc sur l'avenue principale de Sarcelles. Ensuite, on a fait un prix de l'équipement culturel destiné au grand public, où ils ont mutualisé les espaces cet après-là. Donc sur l'espace de la gare, la commune avait lancé un projet pour rénover tout un espace, et notamment un espace qui sert de salle de danse, de conservatoire, de ludothèque, de médiathèque, ouvert au public. Et ils mutualisent d'ailleurs avec Moore, avec tout ça, pour la partie pour la partie médiathèque et pour la partie donc au conservatoire. Donc ça, c'est très bien. Très belle rénovation. Et tout le quartier a été rénové. Là, j'invite vraiment les gens à y aller parce qu'il y a un petit marché, a priori. C'est très sympa le samedi.
Oui,
ils ont fait des logements à un niveau assez bas pour pas que ça gêne justement avec l'église qui était derrière. Donc
ça a été bien pensé.
Ah, c'est vraiment joli à aller voir. Faut aller voir ça. C'est très sympa. On a vu donc logement collectif, une très belle construction. Qui s'est faite donc sur la zone d'activité et d'habitation des Linandes. C'est le quartier qui est en face de la Rennais. Là, le quartier est en pleine ébullition,
oui,
clairement.
Oui,
alors, le maître d'ouvrage, c'est la communauté d'Aglo, bien entendu, pour l'Aglo.
Là, il y a de l'espace.
Ah, mais, et en même temps, il essaie de préserver les espaces, le peu d'espace naturel qu'il y a, en faisant un parc. Donc, il y a une école, il y a eu un collège, il y a donc des logements du collectif et donc du privé. Enfin, vraiment, ce logement nous a séduit. Allez. par les interactions entre les bâtiments, c'est en long, c'est très bien fait. Donc là, pareil. Et puis on a vu une très belle maison individuelle. Alors en termes de prix, pas la plus chère qu'on ait vue, parce qu'on a vu deux autres très très belles maisons individuelles. Mais celle-ci, elle nous a séduit par l'engagement, et donc c'est à Saint-Gratien, par l'engagement qu'a mis la personne. Alors en fait, je pense qu'on était séduit par l'histoire de la personne. C'était une dame qui habite Saint-Gratien, mais qui par ses activités professionnelles est souvent entre deux avions. Elle travaille, lui arrive d'aller au siège de sa société qui est en Suisse. Il lui arrive d'aller à d'autres endroits parce qu'elle elle fait des conférences. Et cette personne-là, elle a eu beaucoup d'influence avec le Japon.
Oui.
Et donc, elle a fait une annexe à sa maison, la mode japonaise. C'est-à-dire, en y mettant des essences de bois, en y mettant des pavés autour, en mettant un bassin, voilà. Le ratio prix, objectivement, c'est pas le plus cher, mais par contre, son histoire nous a séduit.
Oui.
Et surtout, alors moi, je tiens à signaler, là, sur les maisons individuelles, la plupart du temps, on a eu affaire à des entrepreneurs du Val d'Oise. Et
important.
Ça, c'est une vraie force.
C'est important.
On l'avait. C'est pas un critère, clairement.
C'est pas réservé.
Sur les maisons individuelles, à plus de 50%, il y en a une, c'est 80% des entreprises du bâtiment du Val d'Oise. Et ça, c'est une vraie fierté. Ça prouve qu'on a des entrepreneurs, des artisans qui savent vraiment bosser. Et sur le collectif, c'était pareil. Et sur le culturel équipement, c'était la même chose. Donc ça, quand même, faut le dire. On a des gens
donc
en Val d'Oise.
Donc le Made in 95.
C'est du Made in construction, ouais, du Made in building Val d'Oise. Et ça, c'était très bien. Donc un superbe prix qu'on a remis d'ailleurs. Dans un espace qui avait présenté son projet, en l'occurrence le nouvel espace culturel à Herblay, la nouvelle salle là,
d'accord,
qui est une salle magnifique, hein, absolument magnifique. J'invite vraiment tout le monde à y aller aussi. Ils avaient candidaté, mais le choix du jury a été de donner plutôt non pas à Herblay, mais de donner ce prix donc après, parce que c'était vraiment un projet qui était plus globalisant, et voilà, ça s'est fait
mais
comme ça.
Mais le fait de remettre les prix.
Comme quoi, c'est pas parce que on accueille qu'on a forcément le prix. Vous voyez,
faut le dire.
Il y aurait eu le prix, alors voilà, ça aurait pu, voilà.
Ouais.
Et donc, ça s'est fait dans le cadre de l'Assemblée Générale du CAUE Val d'Oise qui s'est très bien passé.
Et pour revenir à la maison individuelle, c'est l'architecte donc qui a postulé,
alors,
qui a candidaté.
C'est l'architecte qui postule avec l'accord, bien entendu,
du propriétaire,
du d'ouvrage privé
évidemment.
En fait. Hein,
mais pour tout, c'est lui qui.
C'est l'architecte. C'est un dépôt commun. Donc oui, parce qu'on visite la maison. Hein.
C'est ça.
Donc il y a quand même une petite relation de confiance. Voilà. Mais là, le propriétaire.
Après, visiter une maison pour qu'ensuite elle soit sélectionnée, ça ne doit pas poser de problème, normalement.
Pour tout te dire, Jacqueline, vraiment là-dessus, c'est les maisons individuelles, c'est celui, le prix sur lequel on a le plus de mal à avoir des candidatures.
D'accord.
Les personnes ont du mal à ouvrir leurs portes. Je pense que c'est lié à plein de choses. Il y a une intimité, puis ils se disent, il y a peut-être un risque à un moment.
C'est possible d'être trop visible.
Il y a des photos quand même qui sont faites, qui sont projetées. Alors, il y aura quelques photos sur le palmarès. Malheureusement, tout le monde n'est pas n'est pas pavé de bonnes intentions. Donc voilà. Mais cette année, on avait des très belles maisons. celle qui a le plus, c'est ça, c'est durable en fait. Très belle maison, bien faite, une histoire, fait, voilà, et ça a matché complètement avec l'esprit du prix.
En tout cas, vous en parlez très bien. On sent que ça, vous avez les étoiles dans les yeux, William.
C'était très sympa.
Merci pour cette sélection. Un sujet qui vous tient à cœur aussi. Vous étiez venu il y a 2 ans. Hein, j'ai regardé. C'était en 2022 pour annoncer les World Skills, William. Et aujourd'hui, on est dans la dernière ligne droite. Sébastien, vous voulez nous en parler ?
Exactement, on est dans la dernière ligne droite. Alors, on est dans une année olympique, mais y compris pour nous dans les métiers du bâtiment. On se déroulera entre le 15 et le 17 septembre 2024 à Lyon, en France, donc, les finales internationales des World Skills, où il y a 65 pays représentés, c'est 1500 compétiteurs attendus, c'est 250 000 visiteurs, c'est 64 métiers représentés, et dans ces 64 métiers, il y a 20 métiers qui correspondent aux métiers du bâtiment. Donc, faut savoir qu'avec la Fédération française du bâtiment, on a monté une équipe de France du bâtiment, qui sont avec leurs maillots, avec leurs équipements, comme des sportifs de haut niveau. Ils s'entraînent actuellement. On les a vus, les jeunes. Ils sont pour être les meilleurs et participer à ces compétitions internationales, en effet. Et ça décernera les meilleurs artisans du monde.
Oui, du monde, oui. Hein, donc parce que, en fait, si on traduit, c'est un peu les Jeux Olympiques des métiers.
Ah, c'est les Jeux Olympiques des métiers, c'est ce que je veux dire. On a une année olympique aujourd'hui, cette année en 2024 en France, d'une part d'un côté sportif, mais aussi pour les métiers. Et on reçoit ces deux organisations la même année en France, donc on en est très fiers.
Et pour compléter ce que dit Sébastien, au congrès de la fédération, on les a accueillis. C'était un moment vraiment émouvant parce que accueillir des jeunes avec les drapeaux bleu, blanc, rouge, avec tout cela, avec cette volonté de porter le drapeau sur le métier, c'est absolument grandiose. Ils ont une standing ovation, c'est pas compliqué.
Carrément.
Donc ils sont parfaitement prêts. Ils savent où ils veulent aller. Ils ont de l'or dans les mains. Mais ça va pas
être. Et dans la tête.
Mais clairement, c'est un niveau mondial. C'est.
Quand vous nous dites qu'ils sont en train de s'entraîner, donc ils s'entraînent sur quoi?
Ils s'entraînent. Alors c'est là où nous on intervient aussi. Ils ont des coachs, des entraîneurs qui sont en fait des professionnels du bâtiment. Des gens comme vous et moi, comme moi. Et on participe aussi à leur donner des matériaux qui vont servir juste à créer des coffrages, créer des œuvres d'art du bâtiment avec du béton, mais c'est des matériaux. Et ils ont des entraîneurs qui sont leur garant, leur prof de CAP, leur prof de bac pro, mais qui sont souvent des ouvriers très qualifiés et souvent avec énormément d'expérience, puisque pour concourir, il faut être un jeune, on va dire.
Il faut avoir 23 ans. Et j'avais noté quand vous étiez venu il y a 2 ans, il devait être né à partir du 1er janvier 2002 pour avoir 23 ans l'année de la compétition.
C'est ça. Donc ça fait partie de nos jeunes, mais bon. Et c'est vrai que ce qui nous éblouit, on peut le dire, moi, William, c'est vraiment qu'on peut parler d'aujourd'hui qu'on a un problème avec notre jeunesse, qui est pas investie, qui est pas motivée.
C'est faux.
Là, on a vu le contraire complet avec des jeunes qui sont motivés, qui savent ce qu'ils veulent faire, qui ont de l'or dans les mains, mais de l'or aussi dans la tête, je leur dis, parce que ce sont des gens qui sont courageux, très bien câblés et qui veulent réussir et qui se donnent les moyens de réussir. Donc en effet, ils sont souvent donc en apprentissage dans des entreprises. Donc faut savoir aussi que les entreprises qui les embauchent et qui les payent mettent à disposition du temps pour qu'ils puissent s'entraîner. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils sont pas sur les chantiers, ils sont payés, mais ils font des choses qui entre guillemets ne servent à rien, parce que c'est de l'entraînement, et avec des matériaux, mais ils sont pris en charge vraiment par ces personnes, et tout le monde sont vraiment autour d'eux, et eux ils sont très reconnaissants de tout ça, de ce que fait la Fédération française du bâtiment pour eux, de ce que font leurs patrons pour eux, parce que c'est quand même un investissement aussi pour les entreprises qui portent ces jeunes là et ils ont vraiment envie d'aller très loin dans cette compétition. Mais c'est vraiment, on a l'ambiance des JO, on a le défilé des délégations avec les drapeaux, on a les hymnes, on a tout ça, donc c'est aussi émouvant que
c'est une très belle cérémonie.
Exactement. Ah bah, j'encourage vraiment tout le monde à y aller. Je redonne les dates. 15-17 septembre à Lyon. Je vous dis, on attend 250 000 personnes. Alors prenez des places, parce qu'il y aura pas des places pour tout le monde non plus. Hein. Mais je vous dis que c'est vraiment une ambiance de comme d'un match de foot dans un stade, avec des encouragements, des supporters, des gens qui viennent, voilà, qui crient, qui hurlent pour supporter leurs meilleures équipes, leurs représentants de leur délégation. Et puis, bah, il y a les copains aussi qui font en équipe de France. Ils vont tous se soutenir les uns les autres. Donc ça crée vraiment des très très belles ambiances.
Mais alors cette finale, elle est sur une journée.
Sur plusieurs jours, parce que vous avez demi-finale, finale. Enfin, il y a des qualifications. C'est un système de tournoi, voilà, avec des épreuves à faire. Alors, ça dépend dans chaque métier dans lequel vous concourez. Il y a des métiers qui sont sur plusieurs jours parce que ça nécessite l'épreuve nécessite plusieurs jours. Il y a d'autres épreuves où on va resserrer plus ou moins les candidats en fonction de ces jours-là. Mais c'est sur 3 jours à Lyon. Donc, les finales sont le 17.
C'est ça.
Moi, je voulais juste rajouter un petit point quand même. Les World Skills, ça a été un choix de la fédération. Mmh. Encore une fois, je voudrais bien qu'on le reprécise, de créer cet événement pour mettre en avant la richesse et les compétences de nos jeunes. C'est la fédération qui est derrière, avec le MEDEF, pour mettre en avant cette compétition intermétier pour nos jeunes. C'est notre fédération qui a mobilisé l'ensemble de ses partenaires, la SMA et d'autres, pour financer cette opération. Mmh, mmh. Donc ça, c'est important de le rappeler.
Bien sûr.
Parce que c'est une volonté, c'est un ADN de notre fédération, ça. Mmh, voilà. Mmh, mmh. Et on a mobilisé tout le réseau pour le faire, on a mobilisé tout le réseau pour le faire. Donc, voilà. C'est pas quelque chose de...
d'anodin.
C'est pas anodin.
Ouais, ouais.
Et c'est surtout pas, voilà, c'est un bébé de la fédération.
Mmh,
voilà, je tiens à le dire.
Oui, oui, oui.
On se bat pour ça. Voilà.
On
joint la parole aux actes, quoi. Voilà.
Non, et puis pareil, avoir les finales internationales en France, c'est pareil, c'est comme l'attribution des JO. Il y a un dossier de candidature à faire. On n'avait pas eu les dernières parce que notre dossier soi-disant n'était pas assez complet. Enfin, c'est pareil, on se bat pour que ces finales internationales se passent en France. C'est important pour nous aussi. Et on se bat contre plein d'autres pays qui veulent aussi les accueillir. Donc c'est
parce que ce sont des jeunes professionnels du monde entier. Hein,
jeunes professionnels du monde entier, et c'est génial de voir aussi leur mode constructif.
Oui, enfin, parce que
les différences de culture, les différences de travail, les différences de
des
voir
croisements
comme...
d'expérience.
Exactement,
oui,
c'est très très enrichissant.
Donc vous bien sûr vous serez présent pour cette finale.
Pas sur les 3 jours, mais en effet il est prévu que j'y aille sans doute pour les finales.
Très bien. Et est-ce que on peut parler aussi de dire que c'est un concours soutenu par un vaste réseau de partenaires engagés dans l'apprentissage, l'alternance, la mobilité, la jeunesse? C'est un ensemble.
C'est exactement ça. Et comme vient de le dire William, derrière, on a su mobiliser, nous, la Fédération Française du Bâtiment, l'ensemble de nos partenaires, parce qu'il y a des enjeux financiers aussi derrière ça. Mais on met tous nos CFA à la détection de ces jeunes-là pour qu'ils puissent participer aux détections départementales, régionales, nationales, avant de porter en effet à l'international. C'est tout le réseau de l'apprentissage, du compagnonnage qui sont mis à contribution, dont on est partenaire et dont on fait travailler pour que on puisse identifier les personnes les plus qualifiées. Enfin, voilà. Nous-mêmes, on prend des cours avec ces jeunes-là.
Oui,
enfin,
oui,
même
oui,
des
oui.
gens de grande expérience oui, oui. comme peuvent l'être des vieux artisans du bâtiment. C'est génial de voir aussi parce que il y a des nouvelles disciplines. Par exemple, il y a la maquette 3D, le BIM aujourd'hui qui est arrivé, qui est une épreuve et on est médaille d'argent sur la candidature d'avant.
C'est essentiellement du digital.
C'est exactement, mais ça fait partie aussi des mains. Enfin, il faut faire une maquette digitale et c'est aussi une épreuve qui est arrivée avec la numérisation, avec ça arrive dans nos économies aussi. Donc c'est pas que on va dire les métiers traditionnels,
les
métiers digitaux en font partie aussi et on est très bon là-dessus en France.
Ouais. Tu as tout à fait raison de le dire. Il y a les métiers manuels, mais il y en a d'autres qui sont proches de la maquette numérique
qui
en fait partie,
émerge,
clairement.
Hein,
ça, c'est un sujet. Et là, c'est plutôt destiné aux écoles d'ingénieurs, qui sont aussi, qui font partie désormais. On a besoin de beaucoup de maçons-ingénieurs, mais faut mettre en avant les très bons ingénieurs. Le réseau, oui, le réseau qui permet de détecter et de faire les sélections, c'est le réseau du 3CABTP, hein, c'est notre réseau de centres d'apprentissage et de centres de formation, et on s'appuie sur eux pour faire les détections, c'est ce qu'a dit Sébastien, avec des concours. Alors à un moment c'était un concours local, après c'était un concours régional, et puis après ben voilà, à peu près on y va quoi. Voilà, c'est le principe des
ça ne doit pas être simple hein, d'arriver à sélectionner le plus dur
pour sélectionner en fait, c'est de faire comprendre à l'artisan ou au chef d'entreprise qui va devoir peut-être libérer son jeune pour passer ses épreuves, il voit pas la chance ou la finalité. Oui. Alors que justement, il y a des jeunes qui sont passionnés par leur boulot et qui veulent le mettre en avant. C'est un merveilleux moyen de garder son apprenti, justement, en lui disant vas-y, vis ta passion.
Alors oui et non, parce que est-ce que c'est pas un merveilleux moyen pour que ce jeune se mette à son compte?
Et alors, ça c'est l'essence même, je pense.
Quand on dit qu'on est une entreprise, enfin une fédération avec une multitude d'artisans, on veut que nos jeunes prennent leur envol. On veut, voilà, c'est pas des concurrents, c'est des confrères après.
Exactement.
Et on peut s'aider. Moi j'ai beaucoup d'entreprises sous-traitantes ou co-traitantes avec qui je travaille, parce qu'on travaille main dans la main, on travaille côte à côte. Donc oui, c'est peut-être une opportunité pour le jeune en effet de créer son entreprise. Mais là,
non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup le patron, il peut transmettre son entreprise et
il gardera un lien avec cette personne-là et il pourra quand même travailler ensemble, peut-être en cadre de sous-traitance, peut-être en cadre de co-traitance. Il aura formé quelqu'un et cette place-là qu'il aura prise, sera un autre nouvel apprenti qui va venir. Et donc on est dans cette transmission-là où on n'est pas là pour toutes les personnes qu'on forme sont pas dédiées à rester dans nos entreprises.
Oui,
on
n'a
pas capacité à par contre à avoir toujours des apprentis dans nos entreprises. C'est l'ADN de notre fédération, mais de nos métiers, de continuer à transmettre. Mais moi j'ai 3 apprentis par an, on va dire, entre les différents, voilà. Mon entreprise grossit pas de 3 personnes par an, sinon je deviens une entreprise, voilà. Donc on a vocation à les faire repartir une fois qu'ils sont diplômés, qu'ils aillent faire qu'ils volent de leurs propres ailes.
C'est ça.
Ou qu'on les garde si on décide de les garder, parce que ponctuellement on peut avoir une opportunité l'un et l'autre, voilà, que ça correspond à une attente. Mais c'est vrai que faut pas se dire que c'est en effet des gens. Et s'ils restent en effet dans l'entreprise de l'artisan, il aura récolté énormément d'expérience.
Oui, le but ultime c'est la transmission, on a bien compris.
Alors, moi je vais faire un parallèle avec le sport, parce qu'on est bientôt à des échéances sportives internationales fort importantes. Effectivement, le jeune apprenti qui a de l'or dans les mains, je pense que c'est une chance pour son employeur de dire, c'est un peu comme le grattage au loto, vous avez gratté dans tel bureau de tabac, tout le monde va y aller. Et ben là, c'est à peu près pareil. Et moi, je ferais pas un parallèle avec un sport qui se déroule en ce moment et où il y a eu un blessé hier soir, ça y est, c'est la fin du monde, on sait pas s'il va jouer et tout. Moi, je vais faire le parallèle avec le rugby. Vous voyez, Antoine Dupont.
Vous êtes un fan de rugby.
Ouais, on est des fans de rugby. Antoine Dupont, vous voyez, c'est aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Le club qu'il a vu naître, c'est un club d'Angers, c'est Manouac. Voilà. Club qui joue au niveau régional. Ça aurait été une chance de le garder là-bas, vous pensez? Non, moi, je crois pas.
Bien sûr.
Aujourd'hui, c'est une chance de l'avoir fait monter, d'avoir fait par Auch, Lannemezan, Auch, Castres, Toulouse. Et là, j'espère qu'il nous fera gagner le titre olympique. Il aurait bien aimé qu'il nous fasse gagner le titre de champion du monde. Il le fera à un autre moment. Mais s'il nous fait gagner le titre olympique, on dira, bah, putain, on lui a donné la chance. Il a monté tous les échelons. Et son petit club de Manouac, bah, je peux vous dire qu'il sera super fier. Comme si demain, l'entreprise X fait monter telle personne et qu'il devient le meilleur apprenti au monde. Bah, je crois que ce sera une belle réussite. Voilà.
Merci William. Merci Sébastien. C'est bientôt, enfin, c'est pas tout à fait encore la fin de l'émission, mais je vous propose qu'on fasse une dernière pause avant d'attaquer la dernière ligne droite. À tout de suite.
Savait danser.
Merci d'être sur IDFM Radio à l'économie en direct dans laquelle je reçois, dans cette émission, je reçois Sébastien Ramey, président de GTPR et président de la Fédération française du Val d'Oise, Fédération française du bâtiment du Val d'Oise. Ça y est, je fourchais. Et puis William Vinan, secrétaire général de la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise. Alors beaucoup de sujets encore à développer dans les quelques minutes qui restent. Sébastien, il y a des projets, il y a beaucoup de projets dans le Val d'Oise en ce moment, la ligne 17, des projets qui avaient été annoncés par le préfet Philippe Court là, lors de l'AG de la CCI.
En effet, alors c'est vrai que dans ce paysage un peu morose qui est au niveau national, on pense en effet que dans le Val d'Oise, on a on peut tirer notre carte du jeu parce qu'on pense qu'on est un territoire d'avenir, on est un territoire le plus jeune de France, on a des beaux projets. Et c'est vrai qu'il y avait un plan Val d'Oise qui a été mis en place par le Premier ministre Jean Castex à l'époque où il était en charge de ce sujet-là, qui est en cours de développement. Le préfet Philippe Court nous en avait fait un point d'avancement, sachant que on était à la fin des études et en effet au début des lancements des projets de réalisation. Donc c'est à ce moment-là que nous on arrive, les entreprises du Val d'Oise. Donc on est sur ce sujet-là. On a un projet. En effet, on trouve que notre territoire du Val d'Oise est très centré autour de Cergy et qu'il est un peu déséquilibré vis-à-vis de l'Est. Oui. Là-dessus, là où pourtant on est juste à côté de l'aéroport, de la plateforme aéroportuaire de Roissy. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui s'annoncent à l'Est de notre département et on a envie d'y participer parce qu'on pense qu'il y a de très belles opportunités à faire. Donc vous parliez, Jacqueline, de la ligne 17, en effet, qui est la jonction avec Roissy et Paris qui passe par le Val d'Oise. On a participé à une réunion d'information sur une ligne 19 qui viendrait plus largement dans le Val d'Oise justement et qui relierait toujours la Défense avec Roissy. Alors on parle à long terme, là c'est pareil, hein, je reviens sur le... On n'est pas à une échéance politique d'élus, non, on est vraiment sur le travail du développement de notre territoire sur une très longue échelle. Je pense que quand ces projets seront réceptionnés, je ne serai certainement plus à mon poste puisque nos mandats sont courts, mais je ne serai peut-être même plus le président de mon entreprise que j'aurais... je serais peut-être déjà à la retraite, mais c'est pas grave. Oui. Il faut qu'on soit
L'important
sur ces... qu'on lance ces projets, qu'on les aboutisse, parce que derrière nous, il y aura d'autres personnes et on sera toujours dans ce système de transmission où on fera travailler d'autres personnes qui en auront besoin pour développer notre territoire. Donc c'est vrai qu'on déjeune ce midi, en effet, avec l'ensemble des partenaires économiques du Val d'Oise sur un projet développement de Roissy, du territoire de Roissy de France. Ça nous intéresse. On a l'idée éventuellement d'aller mettre une antenne de la FFB Val d'Oise. Nous, on est basé à Cergy, mais peut-être qu'avoir un bureau ou un accueil. Enfin, on ne sait pas très bien sur quelle forme ça peut être de ce côté-là. Le projet qu'on a vu aussi, on a vu des élus à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il faut qu'on en parle. C'est peut-être un peu trop.
C'est
des petits cailloux qu'on a envie de semer. On verra si c'est pas des cailloux, c'est des graines, pardon. On verra si elles germeront ou pas, mais c'est vrai que on parlait des apprentis justement et des world skills, et on se dit que le territoire, où est-ce que la jeunesse aujourd'hui, elle est plutôt à l'est du département, où est-ce que sont les QPVC à l'est du département. Donc avoir un CFA à l'est du département, bâtiment, avec justement cette proximité aéroportuaire et cette connexion aussi 93-77, ça aurait du sens. Alors, c'est du très long terme, tout
oui,
ça,
oui,
hein, ce
oui,
qu'on
oui,
aimait.
On est bien d'accord.
Il faut avoir des idées pour avancer, il faut avoir des visions, il faut avoir une envie d'entreprendre. Et tout ça, on le porte au niveau de 95, nous en tout cas à la Fédération Française du Bâtiment. Et c'est vrai qu'on a déjà fait des démarches avec des élus, que ce soit des sénateurs ou des maires locaux, pour voir si c'est des choses qui peuvent être mises en œuvre.
Alors, pour compléter ce
William
que dit, ouais, pour compléter ce que dit Sébastien, Lolo, on peut en parler parce que il y a de ça plus d'un an un rendez-vous qui s'était fait réaliser donc à la chambre des métiers du Val d'Oise et effectivement ça a été sur la table comment nous on voyait les choses, est-ce qu'il y a des opportunités, et clairement on est peut-être pas d'accord avec tout le monde, voilà, mais de toute façon il y a un vrai sujet sur ça, sur ce territoire là-bas, et oui, je pense que c'est notre rôle en tous les cas de faire la prospective, de réfléchir, et dans cet esprit, oui, on rencontre, de toute façon on fait pas ce qu'on veut, mais je veux dire, on rencontre les personnes qui nous semblent opportunes, et on voit ce qui est possible de manière raisonnable, et en associant tous les partenaires, bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus.
Complètement. Et alors, moi, je le constate avec mon émission, où la CPME est en train aussi d'investir complètement le territoire de Roissy. Nous-mêmes, chez IDFM, puisqu'on a rencontré Madame le maire Michel Calix, je vais aller à sa rencontre aussi, parce que on comprend que ce sont des territoires qui ont besoin d'être mis plus en avant qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent.
Mis plus en avant et sur lequel il y a un potentiel de développement assez important pour l'ensemble de l'économie générale du territoire. Donc on est tous d'accord pour y aller et soutenir les projets, qu'ils soient politiques, économiques. Vous parlez de la CPME et c'est vrai que aussi, enfin, le Cap à l'Est, on est tous plus ou moins d'accord sur ce sujet-là. Donc cette réunion de ce midi, on aura la CPME, le MEDEF,
tous les institutionnels du Val d'Oise
avec des interlocuteurs de qualité. Il
manquerait plus que IDFM Radio.
Ça aurait pu.
Vous pouvez venir.
On aura effectivement la chance d'avoir des personnes en charge. Là, c'est des grands projets, donc ex-Grand Paris qui vient nous parler de la ligne 17. On aura le maire de Goussainville qui nous parlera du projet Agoralim.
Abdelaziz Amida,
qui parlera d'Agoralim, parce que là aussi, c'est un projet structurant pour le territoire.
Et du coup, Stéphane Layani
ne sera pas là. On aura aussi la chance d'avoir, alors pour évoquer notamment aussi, parce qu'il y a le BIP, le recours, y est, donc ça c'est passé, donc c'est une bonne chose pour le développement aussi de ces territoires.
Oui.
Donc là, c'est Anthony Hersiero en tant que élu représentant des routes du département qui sera là pour nous en parler. Donc voilà, c'est des intervenants de premier plan.
Bien sûr.
Effectivement, c'est de faire un point et puis indirectement en disant tiens, le monde économique est ultra mobilisé, c'est de maintenir la pression quand même parce que faut jamais relâcher cette pression on veut que ça se fasse quoi. On veut pas que ça se fasse que pour nous, on veut que ça se fasse pour le territoire. Donc il faut toujours qu'on soit très très vigilant, comme effectivement
avoir des garanties que ça va se faire.
Voilà,
des formes
d'engagement, de garanties, parce que on sent bien que c'est mouvant en ce moment, donc il faut les vraies garanties. Mais puis juste pour faire un petit point quand même important, on va évoquer aussi la problématique des nuisances aériennes qui a été évoquée récemment.
Oui.
Alors là-dessus, nous on a une position qu'on a partagée en bureau et je pense qu'on est, aujourd'hui, on ne peut pas prendre en compte la problématique des nuisances aériennes partout en Val d'Oise, dans l'Oise et autres. Mais par contre, c'est de dire, c'est quoi est-ce qu'il en faut plus, il en faut moins, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça coûte en termes de tout. Donc, c'est d'avoir une attitude raisonnée. Et nous, notre proposition, là encore, elle se veut constructive. Il existe un dispositif en Val d'Oise, à l'initiative du département du Val d'Oise, qui s'appelle Val d'Oise Rénov. C'est un dispositif où les personnes peuvent demander, donc appeler pour connaître les dispositifs à rénovation à leur maison, qui fonctionnent bien. C'est un bon outil, c'est une bonne démarche. Nous, on a demandé à ce que, puisqu'il y a aujourd'hui une taxe qui existe, qui est prise sur les compagnies aériennes, pour faire l'acoustique des maisons, pour justement... On a dit, mais dans ce cas-là, en Val d'Oise, si on veut vraiment voir quelque chose d'intéressant, on fusionne, tout au moins on abonde Val d'Oise Rénov avec la taxe sur les nuisances aériennes.
D'accord.
Parce que l'isolation des fenêtres,
ça serait directement
l'isolation phonique, c'est à 99% la même chose. Donc faisons quelque chose de plus important pour les territoires qui vont être touchés, qui le sont déjà. On fera de l'énergétique et de l'acoustique. Tout le monde y sera gagnant. Mmh. Donc je crois savoir que notre proposition constructive, elle a eu écho. On dit mais oui, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise solution. Il se pose juste la question de la taxe sur la nuisance aérienne qui est aujourd'hui redistribuée d'une manière. Et ça, quand une taxe est récupérée par un organisme pour lui dire que vous aurez plus la taxe, on va la mettre ailleurs, c'est pas toujours bien vu à d'autres niveaux. On sait bien comment ça se passe. Voilà.
Ça risque de grincer des dents.
Mais l'idée, en tout cas, c'est du tout le monde.
Non, voilà, l'idée, c'est de se dire, en effet, si on rénove le bâti de manière énergétique, le rénover de manière acoustique, comme l'a dit William, c'est à 95%, on parle de la même chose. Donc, guider vraiment des aides vers ce territoire justement qui subit les nuisances aériennes pour rénover énergétiquement et acoustiquement les bâtiments et construire de cette façon-là.
Oui, c'est
on trouvait que ça avait du sens là-dessus et ça n'arrête pas en effet la problématique du développement économique de la plateforme aéroportuaire de Roissy, qui, je pense, est plutôt une chance pour notre territoire et qui nous permet justement de pouvoir voir des axes de développement assez intéressants.
Mais je crois qu'on a fait le tour, mais ça présage d'autres sujets à exploiter lors de votre prochaine venue. Merci infiniment Sébastien Ramey et William Vinant d'avoir parlé à bâton rompu sur et votre activité, les soucis actuels, mais aussi tous les beaux projets qui sont égrenés par votre fédération. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Voilà, l'économie en direct est terminée. Merci Francky pour la technique. Merci chères auditrices et auditeurs de nous suivre aussi fidèlement. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son intégralité sera disponible en replay sur le podcast mis en ligne sur le portail de la radio. Et puis, je vous dis à vendredi.